VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Le Pentagone a attribué mercredi à des combattants du groupe État islamique la responsabilité de l'attaque qui a coûté la vie à 4 soldats américains et à 4 soldats nigériens le 4 octobre dans le sud-ouest du Niger. De nouveaux détails font penser que des villageois locaux pourraient avoir joué un rôle dans l'embuscade tendue à ces militaires. Les forces spéciales américaines, appelées Bérets Verts, venaient de terminer une réunion avec des leaders locaux et se dirigeaient vers leur véhicule quand ils ont été attaqués, selon un officiel américain qui a requis l'anonymat parce que l'enquête se poursuit. La réunion ayant duré plus de temps que prévu, d'aucuns soupçonnent que les villageois ont délibérément retardé le départ des militaires américains, a dit le même officiel à la Voix de l'Amérique. L'attaque a eu lieu près du village de Tongo, dans la région de Tillabéri, au nord-ouest de la capitale Niamey. En Côte d'Ivoire, le gouvernement réfute toute forme de dissension entre le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Cette clarification intervient 2 jours après l'incarcération d'un proche de M. Soro, Éric Manirakiza.
D'après le porte-parole du gouvernement Bruno Koné, il n'y a pas de raison qu'il y ait des dissensions entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. M. Koné a toutefois nuancé que s'il y en a, cela ne viendra pas du président. Le chef du protocole de M. Soro, Souleymane Camarate Koné, alias Sol to Sol, a été inculpé de complot contre l'État à la suite de la découverte en mai d'une cache d'armes dans sa villa lors d'une mutinerie à Boaké. Son arrestation et son incarcération lundi ont renforcé la spéculation de dissension entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Dans une lettre ouverte publiée en ligne hier, Souleymane Camarate Koné accuse le pouvoir de viser plutôt son patron, Guillaume Soro. Mais Abidjan a mentionné que le gouvernement laissait la justice faire son travail. Membre du parti au pouvoir, la presse ivoirienne prête à M. Soro l'ambition d'accéder à la tête de l'État en 2020.
Au Libéria, les premiers résultats de la présidentielle attendus ce jeudi. La Commission électorale nationale ayant reporté leur publication prévue hier en invoquant des défaillances en matière d'organisation. L'incertitude demeure notamment sur la tenue d'un éventuel second tour si aucun des 20 candidats ne l'emporte dès le premier. Les deux favoris, le sénateur Georges Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant Joseph Boakai, semblaient se détacher de leurs concurrents, d'après les résultats partiels provisoires diffusés par les radios. Et puis au Kenya, le ministre de l'Intérieur a interdit ce jeudi les manifestations dans le centre des 3 principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblements de l'opposition en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre. Le gouvernement kenyan a évoqué la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public suite à la campagne de manifestation entreprise par l'opposition dans ces 3 villes pour protester contre la commission électorale chargée d'organiser le scrutin du 26 octobre après l'invalidation en justice de la présidentielle du 8 août. Cette commission a annoncé hier que les 8 candidats en lice lors de l'élection invalidée par la justice peuvent se représenter au scrutin du 26 octobre, selon Julia Moulissa.
À la suite de l'annulation par la Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Kenyatta, la commission électorale avait convoqué une nouvelle élection fixée au 26 octobre entre M. Kenyatta et l'opposant Raila Odinga. Saisi par un des 6 autres candidats, la haute cour a jugé que tous les candidats du premier scrutin, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir se représenter à l'élection du 26 octobre. Raila Odinga avait annoncé mardi son retrait de la course, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour garantir un scrutin libre et équitable. Selon l'opposition, le retrait de M. Odinga devrait automatiquement conduire à l'annulation du scrutin du 26 octobre et à l'organisation de nouveaux processus électoraux pour une date ultérieure. La commission électorale a précisé que M. Odinga et son colistier ne lui ont pas transmis le formulaire pour entériner leur retrait. Elle appelle l'ensemble des acteurs au calme et au dialogue pour s'assurer que les élections puissent être organisées avec succès et que les pays puissent aller de l'avant.
Le Rwanda a encore une fois rejeté comme sans fondement le rapport de l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch qui accuse l'armée rwandaise de torturer pour obtenir des aveux de suspects détenus illégalement. Les détails avec Morgane Guiriek.
Johnson Businge, ministre rwandais de la justice, avait déclaré mardi ne plus répondre à Human Rights Watch et que ces accusations, comme toujours, sont des mensonges qui n'ont rien à voir avec les droits de l'homme mais uniquement combattre le Rwanda. Hier, dans un communiqué, M. Businge ajoutait qu'il n'y avait aucune preuve crédible de ces accusations, que le Rwanda est signataire de la Convention contre la torture et la respecte. Human Rights Watch a affirmé avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement, dont une majorité ont été victimes de tortures, bastonnades, décharges électriques et simulacres d'exécution dans des centres de détention entre 2010 et 2016. À la mi-juillet, l'ONG avait publié un autre rapport accusant les forces de sécurité d'avoir exécuté au moins 37 petits délinquants dans l'ouest du pays. Kigali a toujours rejeté catégoriquement toutes ces accusations.
Au Cameroun, après les troubles meurtriers de ce mois-ci dans les deux régions anglophones du pays, de nouveaux appels au dialogue ont été lancés pour mettre fin à une crise qui dure depuis presque un an. Mais le gouvernement camerounais maintient sa ligne dure face au mouvement séparatiste. Reportage Moki Edwin Kinzeka, récit Nathalie Barge.
Les groupes de défense des droits humains disent que la répression gouvernementale dans les deux régions anglophones du Cameroun continue d'alimenter les tensions. Cela fait près d'un an que des militants des deux régions anglophones se mobilisent pour une plus grande autonomie. Certains réclament l'indépendance. Pierre Baldiguel, leader de l'UPC, le plus ancien parti politique du Cameroun, pense que le gouvernement devrait amener tous les acteurs autour d'une table. Il y a trois types d'acteurs. Les gens qui veulent la sécession, qui veulent créer leur propre État, les gens qui veulent revenir au fédéralisme et ceux qui veulent rester dans un État uni, décentralisé. Le président Paul Biya n'a pas exclu le dialogue, mais il a déclaré que le Cameroun est un État indivisible. Les troupes sont restées déployées à la suite de manifestations pour l'indépendance dans les zones anglophones le 1er octobre. Au moins 17 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, selon Amnesty International. Le gouvernement dit que des enquêtes sont en cours sur la conduite de l'armée. Cependant, les autorités ont rejeté les appels lancés par les dirigeants chrétiens pour libérer les détenus et abandonner les poursuites contre des personnes en exil afin d'apaiser les tensions et d'ouvrir la voie au dialogue. Le porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma, a déclaré que les groupes qui préconisent des réformes de l'État devraient utiliser le processus politique.
Let SCNC form a political party.
Que le SCNC forme un parti politique. Nous sommes d'avis qu'une grande majorité de notre population, de notre peuple, voudrait revenir au fédéralisme. Comment pouvez-vous le savoir si vous ne consultez pas les gens par la voie des urnes ? Un retour au fédéralisme a été parmi les réformes proposées par les enseignants anglophones et les avocats pendant leur grève en novembre dernier. La crise s'est aggravée au fur et à mesure que les groupes séparatistes ont commencé à réclamer l'indépendance totale. Mais la question centrale reste la même, à savoir la présumée marginalisation des anglophones. Verkijika Fanso, professeur d'histoire à l'université de Yaoundé, recommande un dialogue ouvert suivi d'un référendum dans les régions anglophones. Comment appelle-t-on un terroriste qui n'a pas d'armes, qui marche avec des branches d'olivier ? Ce n'est pas parce que certaines personnes disent vouloir une autre forme d'État qu'il faut les chasser, les arrêter et les emprisonner. Un référendum semble peu probable. Il doit être demandé par le président et la dernière fois que le Cameroun a tenu une consultation populaire, c'était en 1972.
Et vous terminez, le Burkina Faso commémore dimanche les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, icône de la révolution d'une jeunesse voulant panafricaine et fauchée à 38 ans seulement. Procession, sit-in, colloque, exposition, campagne pour ériger un monument aux Che Guevara africains seront les temps forts de cette célébration. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.